Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours de Communication P101B. Nous voilà réunis, façon de parler, pour ce premier fichier audio consacré à cette matière très large, la communication, notamment la communication publicitaire, mais pas que. Alors, au niveau des modalités, je vais faire vite, hein, je rappelle donc, outre ce fichier audio à votre disposition, désolé pour la voix, hein, elle est très matinale et un peu rugueuse, mais il faudra vous y faire. Au-delà de ce document audio, vous avez bien sûr le syllabus papier ainsi que des sources visuelles fixes ou animées sur la page connected correspondante. Vous aurez remarqué que pour le coup, ici, je vous ai quand même pas mal mis de vidéos. Vous allez voir, elles sont parfois incroyable, étonnante, et elles en disent beaucoup sur la difficulté que peut représenter quelque chose apparemment très simple à faire, qui est échanger et communiquer. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire des infos au cours de com, mais je vais quand même faire une petite entorse au règlement cette fois-ci en vous en donnant une, parce qu'elle vaut quand même un peu le coup, je crois. C'est vraiment de la communication. Ceux qui sont de la région savent bien qu'il y a eu une sorte de petit fait divers qui a agité un tout petit peu le landerneau politique du coin. C'est le parachutage de Julie Tathon, ex-Miss Belgique, animatrice télé, radio, je sais pas trop quoi, dans la ville de Mons. Hein, Georges-Louis Boucher, le président de ce parti appelé MR, avait fait venir cette dame en voulant la positionner en tête sur sa liste. Hein, sa liste qui s'appelle Mons en mieux. Alors, pourquoi elle ne s'appelle pas MR et qu'elle s'appelle Mons en mieux? Mais parce que quand vous êtes dans le cadre d'élections communales, c'est toujours un peu plus compliqué et il y a des alliances entre des personnalités. Hein. Souvent, au communal, on vote pour des personnes plus que pour des programmes. Et donc, souvent, les listes rassemblent des gens qui peuvent avoir des idéologies un peu plus différentes que à d'autres échelons d'élections. Et donc, c'est la raison pour laquelle, bah, plutôt que d'avoir une liste MR ou engagé ou socialiste, ben vous allez avoir liste du bourgmestre ou ensemble. Et ben, en l'occurrence, Georges-Louis Boucher a créé une liste, c'est plutôt bien trouvé parce que ça s'appelle Mons en mieux, donc ça veut dire qu'il y a déjà un message en fait publicitaire à travers le nom de sa liste. Donc Mons en mieux, ça au niveau du message, mais là j'anticipe par rapport à la suite de la matière, hein, évidemment, mais enfin il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Mons en mieux, ça dit quand même beaucoup plus que liste du bourgmestre. Hein. Liste du bourgmestre, c'est descriptif. Mons en mieux, bah, il y a une promesse quelque part. Voilà, juste je ferme la parenthèse. Et donc, pour en revenir à ce fait divers, Julie Tathon, comme vous le savez peut-être si vous avez suivi un peu les médias, a été parachutée en venant du Brabant wallon, mais ne réside pas vraiment, c'est une condition sine qua non pour participer aux élections communales, et quoi de plus normal d'ailleurs que de résider dans la commune où on se présente. C'est visiblement pas trop le cas pour elle, hein, puisque chaque fois que les policiers sont venus checker qu'elle habitait bien là où elle avait loué un appartement en centre de Mons, bah, elle n'y était jamais, et donc ils en ont conclu qu'elle ne résidait pas à Mons et que donc elle n'avait pas la place qui lui revenait sur la liste de Georges-Louis Boucher. Résultat des courses, après plusieurs recours devant la justice perdus par cette dame et son parti, elle a dû donc retourner dans son Brabant wallon et il a fallu la remplacer. Et devinez qui la remplace? Eh bien, elle s'appelle Nora Arras. Alors, ceux d'entre vous qui habitent le Borinage la connaissent peut-être parce qu'elle est active sur la télé locale. Mais c'est surtout incroyable, une ancienne étudiante. Je l'ai eue comme étudiante. Et donc voilà, là et là mène à tout. Et donc, on lui souhaite bonne chance. Si elle est élue, elle est quand même deuxième sur la liste. Hein. Donc, c'est une position forte, exposée, on va dire. Eh bien, elle va rentrer, je lui souhaite bonne chance, dans le monde magnifique de la politique. Il est en plus, déjà que c'est un monde compliqué, mais alors je peux vous dire que pour les femmes, c'est encore à mon avis, plus compliqué parce que c'est terriblement macho. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les témoignages qui manquent de femmes qui s'y sont essayées et puis dégoûtées de la lenteur des décisions, des remarques sexistes dont elles ont été victimes, ont claqué la porte après un mandat et parfois même avant la fin de leur premier mandat. C'était l'info comme de la journée. Nora Arras, deuxième sur la liste, Mont-Saint-Mieux, ancienne étudiante de la ELA. Bravo à elle. Alors, pour en venir au cœur de la matière, donc vous aurez compris, je ne vais faire que confirmer et développer un peu plus ce qui a été déjà annoncé verbalement quand on s'est vu là le 17 septembre à la rentrée. Encore une petite modalité pratique, vous voyez que votre document PDF va jusqu'à la page 11. On va s'arrêter au niveau audio à la page 9, donc on ne va pas parler de communication publicitaire. Bon, en fait, j'en ai déjà parlé, mais on va attaquer ce chapitre-là la prochaine fois. Voilà, on a déjà beaucoup de choses à se dire avant ça. Et donc, aujourd'hui, principalement, deux choses. D'abord, on va revenir un tout petit peu sur la difficulté et les fameux obstacles qui permettent une communication pleine et épanouie, et deux, les principes de base, bien sûr, de la communication. Alors, j'ai l'habitude de commencer par les obstacles parce que ça plante un peu le décor, et c'est vrai qu'il y en a de plusieurs types en général. Alors, bon. Moi, j'ai structuré un peu ça à ma façon, et donc je vais vous parler un peu de manière synthétique hein, des trois, à mon avis, principaux obstacles qui obstruent et qui gênent un tout petit peu l'échange entre les personnes. Hein. C'est ce qu'on appelle le mauvais accord. Alors, mauvais accord, c'est un terme un peu théorique en réalité, mais en pratique, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés, je ne vais pas dire au quotidien, je ne vous le souhaite pas, mais quand même. Assez régulièrement. Il y a des tas de petites choses en fait qui font que ça grippe le rouage si vous voulez et ça fait que l'accord n'est pas complet, donc qu'il est mauvais et donc qu'il n'est pas bon. C'est pour ça qu'on appelle ça le mauvais accord. Et donc le mauvais accord, c'est un tas de petites choses qui viennent voilà, un peu obstruer les liens qu'il peut y avoir entre deux personnes. Alors je vous ai utilisé un exemple pour expliquer ça. Et donc, ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par différentes choses, en fait. Donc, par exemple, alors je vous les ai listées, hein, parfois l'interlocuteur ne comprend pas tout, parfois les choses ne sont pas exprimées complètement, donc parfois c'est compliqué à comprendre, et parfois on ne renvoie pas assez la balle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans un échange, dans une communication interpersonnelle, comme je vous l'ai déjà dit, on va en reparler très très vite, il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a un message. Donc il s'agit qu'entre ces trois éléments, ça fonctionne quand même convenablement. Et donc parfois, et c'est le cas de Lucie et Dimitri, là je vous ai mis, ils s'envoient, donc ils s'adorent, hein, ils s'entendent super bien, et donc ils décident de consacrer du temps à passer ensemble pendant le week-end, et donc ils s'envoient une petite phrase, et l'autre répond de manière tout à fait directe et simple et courte d'ailleurs. Et puis vient le week-end, et le week-end ne se passe absolument pas comme prévu, à savoir que dans la tête de Lucie, passer du temps ensemble, ça voulait pas du tout dire ce que Dimitri avait en tête. Et donc, elle se disait, on va chiller, et puis on va aller faire un peu de shopping, et puis on va peut-être aller au cinéma, tandis que lui s'est plutôt dit, c'est super, on va aller tous les deux à la fête d'un pote, et puis on va monter sur nos vélos et on va faire un petit tour, etc., etc. Donc, bon, rien à voir. Alors, évidemment, ces incompréhensions, elles viennent simplement du fait que, ils n'ont pas consacré assez de temps pour se comprendre. Et donc, les hypothèses n'ont pas été assez exprimées et il n'y a pas eu assez de retour aussi. Alors, Le retour, c'est quand on vous dit quelque chose et que vous répondez ou pas. Donc parfois, il n'y a pas de retour. Alors, il faut faire attention au terme. Il y a aussi un terme qu'on utilise souvent en communication et je vous en parlerai plus tard. C'est le terme réfutation. Alors, la réfutation, c'est un peu ça, sauf qu'elle a une connotation un peu plus péjorative, négative, si vous voulez, parce que réfuter, c'est contester. Hein, okay? Ici, il ne s'agit pas de contester, il s'agit simplement de compléter l'info et de renvoyer la balle, voilà, de relayer, si vous voulez, pour essayer d'être okay, tout à fait clair. Donc, le mauvais accord, ça arrive quand même, ça arrive souvent. Principalement parce qu'on ne pousse pas assez loin le message qu'on envoie et que on ne pousse pas assez bien le message qu'on reçoit. Donc c'est une première chose que je voulais vous dire. Alors, il y a deux autres éléments qui interviennent dans les obstacles à la bonne communication. C'est d'abord la susceptibilité. Alors, je ne vous apprends rien. Vous avez votre personnalité comme j'ai la mienne. C'est clair que parmi vous, il y a probablement des personnes plus susceptibles que d'autres. Certaines qui ne le sont peut-être pas du tout, hein, et d'autres qui le sont exagérément. Alors, c'est peut-être la peine de rappeler également la différence qu'il peut y avoir entre ce mot susceptibilité et un autre mot qui lui ressemble très fort, c'est sensibilité. Et donc, on est tous sensibles, forcément, parce que, alors c'est un autre élément super important en termes de communication et aussi en termes de communication publicitaire. Nous apprendrons plus tard dans l'année que les marques, les organisations dont je vous ai déjà parlé au cours du marketing, mais travaille sur les émotions, bien sûr. Alors, je ne vais pas de nouveau raconter tout le cours avant, mais pourquoi est-ce que les marques travaillent sur les émotions? Mais parce que vous les retenez beaucoup plus que quand vous n'êtes pas ému, hein, qu'on faire ouais, tous les épisodes que vous avez pu traverser dans votre vie privée qui n'ont rien à voir avec des marques. Hein, mais voilà, ce qui vous a vraiment impressionné, bon, en général, vous ne l'oubliez jamais. Et on peut multiplier les exemples, moi j'en ai des tas à vous donner. Alors, donc l'émotion, la sensibilité, on a tous ça. Alors la susceptibilité, c'est une sorte de version exagérée de la sensibilité, si vous voulez. Et donc c'est plus vif. Je vais, au moment où je vous parle, ouvrir mon dictionnaire en ligne pour voir ce qu'ils en disent. Donc c'est le petit Robert, en fait. Hein, donc c'est une référence de qualité, en principe. Alors voilà, je trouve, voilà, j'ai tapé susceptibilité. Le fait d'être susceptible, vive sensibilité. Citation, le tempérament des individus et leur susceptibilité nerveuse. C'est Baudelaire qui a dit ça. Voilà, c'est une prédisposition, réceptivité. Oui, ok, ça c'est moins. Ah, ben voilà, le deuxième sens est intéressant aussi. Caractère de quelqu'un dont l'amour-propre est très sensible. Donc, on a la confirmation de ce qu'on disait. La susceptibilité, c'est une sorte de super sensibilité, si vous voulez. Et donc, ça aussi, évidemment, ça bloque complètement parce qu'une fois que vous êtes susceptible, il y a une sorte de porte qui s'abaisse, qui se ferme, et il n'y a plus moyen de progresser. Et donc, ça, c'est évidemment un problème quand on communique. Et voilà, je vous ai mis deux, trois petits bullet points hein, qui expliquent un peu tout ça. Pas loin de la susceptibilité, mais ce n'est pas la même chose. On a cet autre. Tiens, il manque un espace en page 3, là, je suis désolé, en haut de égocentrisme. C'est une erreur, ce n'est pas grave, de mise en page. L'égocentrisme, donc. L'ego, comme on dit. Ça, évidemment, que par définition, c'est un problème et un obstacle à la communication. Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous êtes centré sur vous-même et que vous négligez complètement l'autre. Ce qui est évidemment un énorme problème en termes de communication. Ça, évidemment, c'est pas possible d'échanger en étant dans ce genre de situation. Et donc, l'égocentrisme, il est assez parfois paradoxalement, à la fois individuel d'abord, mais il peut être aussi autre chose qu'individuel, c'est-à-dire collectif. Donc je vais donner des exemples pour que ça soit plus clair. Donc individuel, ben, vous l'aurez compris, tourné vers soi-même. Cet égocentrisme, en fait, il peut être soit tout à fait assumé, hein, vous êtes égocentré et ce n'est pas un problème pour vous. Ça va être quand même un problème globalement, parce que la vie est faite de communication. On ne peut pas vivre sa vie sans communiquer. Donc il y a quand même, à un moment donné, il faut faire un peu un chemin vers l'autre. Sinon, ben, on s'en sort jamais. Donc bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, des gens sont assez égocentriques. C'est une réalité. C'est parfois volontaire et c'est parfois subi. Ce que je veux dire par là, c'est que cet égocentrisme, ben, malheureusement, il vous est un peu, comment dire, facilité par la société et l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc les nouvelles technologies n'ont évidemment pas été d'une grande aide pour essayer d'être plus collectif, hein. Donc je vais prendre deux exemples tout à fait concrets. Ben, le smartphone, évidemment. Et les réseaux sociaux. Bah oui, dans un cas comme dans l'autre, on peut pas dire vraiment, même si vous êtes sur des groupes sur WhatsApp ou LinkedIn ou Facebook pour les plus anciens, c'est quand même très individualisé et égocentré, évidemment. Donc le smartphone, bah, regardez un tout petit peu, vous n'avez qu'à observer, hein, vous regardez l'intercours, vous regardez, voilà, donc vous regardez les transports en commun, vous regardez, parfois c'est bien pire. Vous avez probablement été vous-même choqué, alors que parfois même on le fait soi-même, choqué de ces restos, de ces scènes dans des restos. Hein, donc vous allez au resto avec en famille ou avec votre amoureux, amoureuse, et puis en fait, vous voyez qu'à un moment donné, bah, chacun, l'un et l'autre, est occupé sur son téléphone. C'est quelque part, c'est complètement insensé. Hein, évidemment, c'est un non-sens en termes de communication. Parfois même, peut-être, s'envoie-t-il des messages. J'espère que non, quand même. Voilà, alors je vous disais que l'égocentrisme pouvait être individuel, pouvait être collectif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça je vous en parle dans le syllabus, je vais essayer de le retrouver, oui, voilà. C'est par exemple le cas des Flamands. Je n'ai rien contre les Flamands, hein, évidemment, mais je constate quand même qu'ils ont une dimension égocentrée bien plus développée que les Wallons. Probablement. Parce que évidemment c'est historique, on va pas refaire l'histoire du pays. Je rappelle que si les Flamands aujourd'hui prônent l'autonomie, c'est d'abord parce que au début de la Belgique ils ont été complètement brimés et sous-estimés par les francophones. Donc il y a une sorte de retour de manivelle, si vous voulez. Et par ailleurs évidemment aujourd'hui la Flandre, pardon, a réussi à se convertir au niveau économique bien plus facilement. Donc après la révolution industrielle, elle a beaucoup mieux compris les leçons qu'il fallait tirer de la chute des charbonnages, hein. Il y avait beaucoup de charbonnages aussi au Limbourg, hein, par exemple, et pas seulement du côté de chez nous. Et donc aujourd'hui, c'est une région qui est évidemment beaucoup plus prospère que la Wallonie, et donc tout ça fait que bah, elle se dit, bon, bah, merde, hein, nous, on a fait des efforts pour s'adapter. Elle a tendance comme ça à être... tourner vers elle-même, et parfois ça s'illustre à travers des messages qui sont, j'ai envie de dire, presque scandaleux, en fait, pour ne pas dire honteux, et incroyable quand on ne fait pas partie de leur communauté, quand on n'est pas flamand. Et donc moi j'ai habité quelques années à Anderlecht, à Bruxelles, à Anderlecht, donc c'est à côté, c'est en bordure de la région bruxelloise, donc la commune d'à côté, c'est la commune de Dilbeek. Comme je fais souvent du vélo, on partait souvent à vélo, et puis à Dilbeek, si vous voulez, vous avez une sorte de centre culturel, hein, et une sorte de gros bâtiment comme ça en béton, qui surplombe un peu non seulement la commune, mais qui est assez visible aussi de grands axes routiers. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peint en énormes lettres sur le haut du bâtiment pour que ce soit bien visible par tout le monde, ce slogan que vous voyez là en gras, en haut de la page 3, Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn. Dilbeek, là où les Flamands sont chez eux. Ça veut dire deux choses, cette phrase, et pas une. Et donc le message que vous voyez, ça veut dire un, basiquement, on est chez nous, dites B que c'est là que, hein, on est chez nous, les Flamands, mais ça n'a pas fort d'intérêt de dire ça, et donc c'est le second sens qui est pire, évidemment, c'est vous les autres, vous n'êtes pas chez vous. Et donc, c'est ça toute la. Alors, c'est sournois de nouveau, hein, il n'y a pas que les marques qui sont sournoises, mais ça, c'est évidemment. C'est pas bien. Et alors, c'est pas le seul exemple, hein, dans le coin, dans la commune, pour l'avoir arpenté quand même très, très souvent, bah, quand on cherche un peu son chemin, qu'on regarde un peu les plaques de rue, hein, ça peut arriver. Là, vous avez une rue, bah, alors après, je sais pas, moi, Bergenstraat, c'est le nom de la rue du Pont, et juste en dessous, vous avez. Vlaamsestraat. Donc je vous mens pas, c'était vraiment marqué sur tous les panneaux de rue de la commune de Nieuwebeek, qui est quand même une assez grande commune avec beaucoup de villages, Sint-Pietersleeuw, etc. Ben vous avez chaque fois Vlaamsestraat. C'est comme si à Fos-la-Ville ou à Gembloux, en dessous du panneau rue de la gare, on mettait rue wallonne. Donc zéro intérêt évidemment. Mais ça témoigne de cette sorte de repli sur soi-même, assez typique en fait, et qui bien sûr est tout à fait dérangeant, n'incite absolument pas à l'échange, sauf à l'échange entre soi, et qui bien sûr est choquant, et évidemment. Donc ça c'est non, évidemment que ça... C'est pas bien. Je vais prendre un autre exemple encore plus bête. Moi, je viens en vélo, hein, vous le savez, de chez moi jusqu'à la haute école, et donc je passe par des quartiers résidentiels. Et je suis toujours assez frappé de voir, même au niveau, de nouveau, là je retombe sur de l'individuel, chez les particuliers, comme on dit, les devantures des maisons. Et donc, par exemple, il y a une maison devant laquelle je passe, et je me dis toujours, ah, tiens, ça doit être des gens sympas là, ça me plairait bien de les voir et de voir à quoi. Ça doit être des chouettes gens. Pourquoi? Ben, parce que il est marqué Welcome sur le mur ou Bienvenue. Il y a un petit panneau avec les enfants qui ont écrit une petite phrase. Il y a deux chaises, il y a une petite table, il y a une petite déco sur la façade. Ça a l'air tout à fait invitant. Il y a des petits éclairages comme ça quand vous passez en hiver. Ben, ça a l'air accueillant. Et puis je fais 2 km après, là, 2 km après, tout d'un coup, là, il y a un chien qui me gueule dessus. Il y a une grille à droite, et il y a surtout un gros autocollant dessus, hein, en disant attention, je monte la garde. Ouais, sympa. Ah ouais, ça donne envie, tiens. Oh ouais. Ah ouais, chouette. Ah, on a envie de causer avec eux. Hein. Ben voilà, c'est des exemples plus basiques que ça n'existe pas. Mais c'est clair que ça oriente en tout cas l'échange potentiel qui peut y avoir. C'est pas les seuls petits éléments qui interviennent évidemment dans ce qui peut gripper les échanges. Hein. Donc il y a par exemple aussi effectivement des éléments, bah, qui sont contextuels. Hein. Donc vous n'êtes pas originaire du pays, vous venez d'un autre pays, d'une autre culture, donc un problème, un obstacle de langue ou d'expression verbale par exemple, ben ça c'est clair que là ça grippe aussi un peu le rouage évidemment, de même que l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Bon, ça c'est clair que là je le mets dans le syllabus, mais moi j'ai toujours été un peu abasourdi. Il y a quelques années, j'avais une cousine et quand j'allais la voir, la télé était en permanence allumée. En permanence allumée. Alors après, je ne vous raconte pas non plus le nombre de postes de télé qu'il y avait à la maison. C'était assez ahurissant. Mais donc, quand c'était plus vu depuis longtemps, j'entrais dans le living, télé à fond de balle. Faut pas croire qu'on arrête la télé pour se causer. Hein. Donc la télé vient s'ajouter à l'échange, donc on n'est plus dans un échange à deux, on est dans un échange à trois ou plus. Et donc c'est assez perturbant en réalité, et c'est sûr que c'est un exemple de plus des difficultés qu'on peut avoir sur le chemin de la communication épanouie. Voilà, je pense que c'est assez clair. Là, je pense que la leçon que vous devez retenir de ça, c'est qu'il faut être attentif à ça. Et qu'on a, on a pas envie de perdre de temps, on a juste tous envie d'être heureux et d'être épanoui et d'avoir des relations agréables avec tout le monde, hein, j'imagine. Et donc ça passe par effectivement ben, des tas de choses qu'on doit mettre en place pour faciliter les chances qu'on peut avoir entre nous. Alors, comme je vous l'ai dit au début de ce fichier audio, je vous ai un peu bombardé d'exemples de mauvaise communication, et donc l'un d'entre eux, le premier, hein, mangez-le si vous voulez, je vous en ai déjà parlé l'autre jour. Alors je vous invite hein, donc soit à lire le livre, soit qui coûte vraiment pas grand-chose, mais je ne suis pas sûr que vous le ferez, soit à regarder la BD. Alors il y en a deux exemplaires hein, qui sont à la bibliothèque, j'imagine que vous savez où c'est. On n'appelle pas ça bibliothèque, hein, ça fait un peu vieux, on appelle ça centre de documentation. Enfin, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, puisque l'autre est devant moi. En réalité, c'est pas mal en BD parce qu'il y a vraiment un univers là qui est vraiment. Après, il faut aimer, hein, parce que c'est. Enfin, moi, je trouve cette BD magnifique, et je devrais plutôt dire magnifiquement horrible, parce que elle est à la hauteur de cet événement inimaginable hein, dont je vous ai un tout petit peu parlé l'autre jour, qui est ben, cette descente aux enfers de ce notable Alain de Monéis. Un jour du mois d'août 1870, quand il part avec son cheval à la fête du village voisin, et que, alors je pensais que c'était en 24 heures, mais en fait je m'étais trompé, c'était en une douzaine d'heures, donc en 12 heures, ah non, pardon, c'est même pas 12 heures, je suis en train de regarder la back cover là, 2 heures, je vous lis le truc, hein. 2 heures plus tard, la foule l'aura lynché, torturé, brûlé vif, et même manger. Je termine parce que c'est assez bien écrit. Pourquoi une telle horreur est-elle possible? Comment une foule paisible peut-elle être saisie par une frénésie aussi barbare? Ce calvaire raconté étape par étape constitue l'une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire du 19e siècle. C'est vrai que c'est inimaginable ce truc. Alors c'est pas mal la BD parce qu'en fait ça ne raconte pas seulement que les 2 heures de supplice d'Alain de Monéis, mais également la suite. Hein, donc, je vous en ai touché un tout petit mot. C'est le procès le lendemain, à partir du lendemain, hein, quand les gens hébétés se demandent, parce que y a bien sûr cet effet de foule inimaginable, hein, parti d'une mauvaise communication, juste des mots qui sont mal compris, ok, hein, qui finissent donc bah, par ce que vous savez. Et puis il y a la tentative de compréhension qui suit, et donc le procès, etc. Donc comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille? Voilà. Ben, si vous réfléchissez un tout petit peu, on peut aussi se poser le même genre de questions avec les Allemands et avec les nazis, par exemple, comment ont-ils pu en quelques années, 5 ans, bon, en fait, les problèmes ont commencé un peu avant la guerre, mais donc on va dire, malgré tout, on va rester sur 5 ans. 5 ans, c'est rien, hein, en fait, à l'échelle de l'histoire. Donc, si on prend un peu plus de recul, mais tuer autant de juifs, mais enfin, c'est insensé. C'est vraiment le même principe avec des Allemands, un peuple allemand qui a vraiment adhéré aux idées d'Adolf Hitler, hein, sans aucun problème. Et donc, c'est des leçons importantes, hein, par rapport à certaines personnes aujourd'hui qui sont des dirigeants politiques, et je ne veux pas dire que ça va se reproduire, mais on doit vraiment tirer les leçons de ce genre de choses pour que ça n'arrive plus, évidemment, mais visiblement, c'est une tentation. Et donc, voilà, c'est parfois complètement incroyable, c'est ce qui s'est passé. Si vous en avez l'occasion, vraiment lisez cette BD ou lisez le livre, mais c'est quand même incroyable. Donc, ça, c'est un exemple de mauvaise communication. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, donc je vais essayer de retrouver mon cours parce que là je l'ai un tout petit peu perdu. Voilà, donc moi j'ai le si vous voulez, j'en ai pas. Ah oui, le Covid-19, oh là là, oui, le Covid-19, c'est bon. Là, vous avez connu ça hein, évidemment, donc c'est beaucoup plus récent. Ça a été, c'est vrai, au-delà de tous les problèmes psychologiques, hein, etc., et sanitaires, bien sûr, je vais pas rentrer là-dedans, mais en termes de com', c'était en fait, c'était assez intéressant. Ce qui était particulièrement intéressant dans cette période un peu longue, hein, faut le reconnaître, c'était de voir l'éruption de personnages tantôt, comment dire, agréables et rassurants, et tantôt beaucoup moins. Hein. Donc c'est la différence qu'il y a entre Marius Gilbert, qui était un épidémiologiste qui travaillait à l'ULB et qui était invité sur tous les plateaux de télé, au JT en particulier, principalement, et qui n'était pas du tout préparé à ça. Donc, c'est pas du tout un mec de com, lui, c'est un scientifique, hein, donc c'est vraiment rien à voir. Et puis, qui a été lancé comme ça, bon, il a accepté, hein, en même temps, il s'est dit, tiens, en fait, il est prof aussi à l'UNIF, donc sans doute qu'il a une envie aussi, un certain plaisir à essayer de partager des connaissances. Et donc, ben voilà, il s'est retrouvé un jour sur le plateau du JT, et puis on a plus vu que lui pendant quelques mois, à tel point que quand tout ça s'est arrêté, et qu'il lui a fallu reprendre ben, son travail, il a senti quand même le besoin d'écrire un livre. Après, on en reparlera de tout ça, mais c'est vrai que écrire sur papier, comme ça, se exprimer ce qu'on a vécu, ben, c'est une des facultés de l'écriture, évidemment. Et donc, son livre, Juste un passage au JT, vaut la peine d'être lu, parce que c'est vraiment une expérience qu'il raconte. Alors, c'est pas du tout le même genre de personnage que son voisin sur la page 4, hein, docteur Raoult. Raoult, les Français le connaissent un peu mieux que nous, sulfureux personnage qui, lui, s'est fait vraiment, est devenu une star, hein, pendant la crise du Covid. Chloride, c'est lui qui a instauré ou proclamé que la chloride, alors j'ai oublié le nom du produit, pouvait sauver des vies. Je me souviens quand même que Emmanuel Macron a même été visiter son laboratoire, hein, dans le sud de la France. Je pense qu'il est médecin dans un hôpital à Marseille, je crois. Mais donc c'est un personnage quand même. Il faut voir les photos du début de sa carrière et les photos telles que celles que vous voyez sur le livre là, hein, Chronique pour une humanité en quête de repères. Là, vous avez déjà compris, on est tombé dans le complotisme et dans le un peu n'importe quoi quand même. Donc aujourd'hui, ces thèses ont été complètement balayées par le monde scientifique, hein. Donc, ce n'est pas une invention, et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de me faire dire, hein, c'est la stricte vérité. Et donc aujourd'hui, ben, Raoult, il a retrouvé une autre place que celle qu'il avait. Mais en tout cas, lui, il a profité un peu de la crise pour comme ça, être une sorte de sorcier qui a donné des idées à Donald Trump, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'une conférence de presse en pleine crise du Covid, où c'était vraiment génial, en fait. Bon, le mec, il connaît pas grand-chose en fait, hein, le président. Déjà, globalement, il n'a pas beaucoup de culture, mais là, alors, dans le domaine scientifique, et donc là, il était questionné. Et en fait, quand il y avait une conférence de presse, il était devant, au pupitre, on va dire, et derrière, il y avait son équipe. Sa task force anti-Covid. Et donc parmi elles, il y avait le médecin officiel qui représente le gouvernement américain, qui décide de la politique en matière de gestion de la crise Covid. Et tout d'un coup, il y a Trump qui dit que... Mais je me demande si on ne devrait pas boire de l'ammoniac pour qu'on soit débarrassé du Covid. Et à ce moment-là, vous voyez la tête du médecin, j'ai oublié son nom derrière, qui se liquéfie sur place en se disant, mais qu'est-ce qui nous sort comme ânerie, celui-là? C'était un grand moment de télévision. Ouais, voilà, ça, c'était, donc il y a eu des tas de personnages comme ça qui ont ponctué un peu cette crise positivement ou négativement. Mais ce que je veux surtout raconter aussi par rapport à la crise du Covid et son rapport à la communication et les obstacles de nouveau, après, vous inquiétez pas, on va essayer de parler un peu positivement, mais il vaut mieux parler du négatif pour après mieux comprendre comment faire fonctionner le bazar, c'est le masque, le port du masque. Ah, oh, quelle affaire ce port du masque, vous vous rappelez, je serais curieux de savoir quel masque vous avez fait. Bon, après, on va éviter de reparler de la fabrication des masques qui manquaient, des petits petits masques bleus, là, les Wallons ne savaient plus comment faire, enfin, etc. Il y a eu des trafics avec une marque luxembourgeoise qui les a produites et puis qui a fait faillite. Enfin, bon, bref. Donc, c'était vraiment le bordel. Et puis, hein, les citoyens commençaient à fabriquer des masques. Moi, je me rappelle que les premiers masques, en fait, c'est ma belle-mère de 75, 80 ans qui les a faits. Alors, ça marchait absolument pas parce qu'il y a des courants d'air sur les côtés incroyables. Elle allait rechercher des vieux morceaux de ses robes des années 70 qu'elle n'utilisait plus. Elle avait découpé ça et puis elle faisait des petits carrés et puis elle mettait en tête un élastique trop court. Donc, on a les oreilles qui allaient vers l'avant, toutes rouges et des grands courants d'air. Mais bon, c'était assez design. Hein. C'était un peu. Ouais, donc c'était parfois ouais, dramatique. Les marques, hein, rappelez-vous ce dont nous avons déjà parlé précédemment, hein, les mineurs au Chili, l'Ebola et les lunettes Uvex, et bien même. Même pendant la crise sanitaire, les marques, tout d'un coup, se sont dites, mais c'est un chouette petit espace publicitaire, ça. Je vais pouvoir mettre un petit message là-dessus. Et donc, vous aviez effectivement des marques qui vous proposaient des masques. Et donc, si vous portiez ce masque, eh bien, vous portiez en même temps, vous véhiculiez, vous partagiez un message provenant d'une organisation qui pouvait être non marchande. Hein. Moi, je donne mon sang régulièrement. Je me souviens avoir reçu pas mal de masques de la Croix-Rouge, donc là c'est plutôt ça va, hein, c'est pas trop marchand, mais bon, ça pouvait aussi être marchand. Donc ce masque, c'était vraiment quand même le bordel. Ça a été une opportunité effectivement pour les marques. Pour terminer sur le rapport des marques avec le masque, il n'y a pas eu que le masque. En fait, il y a eu aussi des tas de soins qui ont été quasi fabriqués en fait de manière marketing autour du port du masque. Alors oui, et bien sûr que le port du masque pouvait causer l'éruption momentanée de certains boutons. Et donc là encore, les marques se sont. Alors je peux vous en parler parce que moi je travaille quand même parfois sur une marque de cosmétiques qui s'appelle ou de produits pour la peau, très très spécialisé pour la peau, c'est Avène. Certaines, parce que c'est quand même très féminin, d'entre vous connaissent peut-être cette marque, qui est quand même un peu premium. Mais Avène, je me rappelle, pendant cette période-là, bah, avait sorti des soins adaptés à l'acné du masque, hein, maskné, ça. Donc on en a même fait un nom en fait, hein, maskné. Voilà, sans compter évidemment les pauvres d'entre vous, j'allais dire d'entre nous, parce que moi aussi je porte des lunettes, qui devaient conjuguer port de lunettes et port du masque. Alors, c'était l'enfer absolu. Et donc il y avait là aussi des produits qui devaient faciliter le port des lunettes pendant qu'on devait porter le masque. Donc là, décidément, je le répète une fois de plus, les marques n'ont peur de rien, bien sûr. Mais ce qui est intéressant de retenir aussi par rapport à la crise du Covid, c'est bien sûr qu'on s'est rendu compte à ce moment-là de l'importance capitale qu'avait cette partie du visage qu'on utilise sans arrêt. Une fois qu'elle est effacée, cachée sous ce bout de tissu, ouf, que c'est compliqué. Ah, ça marchait pas. Alors, je sais pas, bah, vous avez connu comme moi, mais donc moi j'ai connu des étudiants que je ne voyais que masqués. C'était assez rigolo pendant des mois. Et puis après, je les ai vus sans masque. Et en fait, tout d'un coup, j'étais complètement surpris parce qu'en fait, l'idée que je me faisais de leur visage n'était absolument pas celle qui était leur visage en réalité. Hein. Vous avez sûrement eu cette impression-là aussi de temps en temps. Vous avez dit, ah bon, c'est ça, sa gueule. Non, bah, j'exagère. Hein. Le terme n'est pas bien choisi. Je m'en excuse déjà. Mais ça, c'est assez surprenant. Mais surtout, bien sûr que ce bas de visage communique énormément. Alors, c'est pas la seule partie du visage, hein, je ne vais pas de nouveau anticiper parce qu'on va parler de ça plus tard dans le cours, mais comme le bas du visage ne savait rien communiquer, je ne vous parle pas de la voix qui était étouffée par le tissu, mais comme il n'y avait plus d'expression labiale, on a compensé, on a cherché à compenser. Donc moi le premier, donc je trouvais ça même un peu excitant parce que je me disais tiens comment je vais. Donc j'ai une réaction à donner de manière voilà, j'ai mon langage non verbal, j'ai des choses à dire. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour éviter cet obstacle? Voilà. Et donc j'ai surjoué avec les yeux. Hein, je ne veux pas être le seul. Et j'ai d'abord essayé avec les yeux, mais alors vous imaginez. Donc il y a des gens qui ils se disent mais c'est quoi ce clown là? Il nous fait les grands yeux. Et c'est quoi de quoi il se permet là? Il nous fait un clin d'œil et ça va aller? Oui. Enfin, etc. etc. Donc ça marchait pas. Évidemment. Et donc, je pense qu'on a été des milliers hein, à faire ce que je vous raconte. Et donc, comme on a vu que les yeux, ça ne marchait pas tout à fait, on a comment dire, exprimé à travers le corps entier. Et donc, on a commencé à se contorsionner, là, à se tordre un tout petit peu, donc simplement en essayant de rattraper ce qu'on avait perdu parce que le bas du visage ne pouvait plus communiquer. Donc, c'était quand même assez intéressant au point de vue gestuel. Voilà. Oui, bon, bien sûr, il y avait encore une autre façon de contourner l'obstacle, c'est de sortir des sons au autre, hein, en fait, et de passer par le verbe malgré tout aussi étouffer soit le son. voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vous ai mis aussi deux autres exemples assez caricaturaux en fait pour terminer ce chapitre. C'est d'abord une vidéo complètement dingue, mais donc tout à fait véridique, hein. Il y a aucun montage, hein, les deepfakes et tout le bazar, ça n'existait pas encore, il n'y a rien de plus véridique que cette anecdote, qui remonte de toute façon à 2013, hein, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, et c'était les obstacles du président sud-africain bien connu, Nelson Mandela, pacifique, poète, qui a été en prison, qui a été torturé, et puis qui est revenu de prison, libéré de prison, et puis qui est devenu président, etc., etc. Vous connaissez peut-être son histoire, il y a eu des films sur lui et tout, et tout. Alors, bon, il meurt, hein, âgé, et je vous laisse découvrir un tout petit peu la cérémonie de ses obsèques. Il s'est passé un petit truc quand même assez incroyable en termes de communication. Je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, l'exemple suivant, le 4, là, dans un train de la SNCB, là, il n'y a pas de vidéo, donc je vous l'explique rapidement. C'est pour vous montrer une fois de plus qu'il faut faire un peu attention dans la manière dont on agit. Il y avait des grèves en Belgique et les syndicats voulaient évidemment alerter l'opinion publique sur des problèmes au sein des entreprises. Et donc, il y en avait qui avaient eu l'idée de monter dans un train et ils se disaient, bah, tiens, là, je vais peut-être pouvoir discuter avec les nafteurs. Et là, dans le train, il y en a un qui a eu une idée un peu surprenante. C'est que, comme vous le savez, il y a un interphone hein, qui est évidemment réservé au contrôleur de train, je ne sais pas comment on l'appelle, quand il a une communication à dire, nous arrivons en gare de machin, préparez vos tickets de transport, enfin j'en sais rien moi, mais donc évidemment c'est évidemment exclusivement réservé au personnel de la SNCB. Ben ce syndicaliste ne l'a pas entendu de cette oreille et a pris l'interphone et a commencé à faire passer ses revendications de manière audio à travers tout le train et tous les wagons. Donc vous mettez un peu un user-centric, comme on dit en com, à la place de ceux à qui ils s'adressent, qui sont voilà, en train de partir au boulot le matin, encore un peu dans la torpeur cérébrale, pas très bien réveillés, avec surtout des idées plein la tête. Ah oui, j'ai ça à faire ce soir, je dois aller chercher les garçons. Ah oui, ils pensent à plein de trucs, et ils pensent peut-être à leurs prochaines vacances, où ils sont plongés dans la lecture d'un bouquin, etc. Et puis tout d'un coup, vous avez comme ça quelqu'un que vous ne voyez pas, hein, qui monopolise la parole de manière complètement imposée, sans nuance pour vous faire passer ces états d'âme, justifiés ou pas, évidemment. Donc, pensait-il qu'en faisant ça, il allait scorer? Visiblement, oui, il le pensait, mais résultat, c'est en fait le contraire. Alors, il y a bien eu quelques personnes qui ont été sensibles, mais c'est beaucoup plus dérangeant qu'intéressant. Et donc, il faut vraiment faire gaffe au médium. Hein, donc, on en reparlera au cours de médias aussi qu'on utilise pour faire passer un message et donc pour communiquer. Alors, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, en fait, je crois que j'avais quand même duré autant de temps que le podcast marketing. Enfin, bon, je sais même pas combien de temps je suis. Ah, 43, oui, en effet. Bon, vous inquiétez pas, je vais terminer. Ça se passe heureusement parfois bien. Et donc, je vous ai mis sur Connected la photo. Oh, ça, c'est un bon moment. Ça réconcilie tout le monde, ça. C'était pas les JO de Paris, c'était les JO de Tokyo, où il s'est passé un moment de com', en fait, comme on en connaît rarement. Ça s'est passé au saut en hauteur. Il y avait un Italien et je crois un Cubain, je pense. Alors, c'est peut-être marqué, je sais plus. Qui ont terminé à stricte égalité. Donc, alors bon, après, on va pas rentrer dans le détail, mais c'était quand même excessivement rare qu'on termine à égalité un concours de saut en hauteur. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des règles qui sont prévues pour désigner un vainqueur et un second. C'est le nombre de tentatives à telle hauteur. Et donc, en fonction des essais que vous avez réussi ou raté, ben, on vous déclare vainqueur ou pas. Mais en l'occurrence, ils avaient tous les deux réussi la même hauteur avec le même nombre d'essais. Et donc, il n'y avait aucune raison de les départager. Et donc, il y avait deux médailles d'or. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais en fait, quand c'est le cas, parce que c'est arrivé aussi au JO de Paris cette année, on demande aux athlètes si ça pose un problème ou si on veut poursuivre la compète pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. En l'occurrence, le Cubain et l'Italien ont décidé de se partager la médaille d'or. Alors pourquoi on fait ça? Parce que les primes sont pas les mêmes non plus, et que si vous avez tous les deux la médaille d'or, en fait, on coupe la prime en deux. Ok, l'Italien et le Cubain au JO de Tokyo, ils se sont dit ah non mais c'est tellement génial, c'est tellement rare, on est en train d'écrire l'histoire là tous les deux. Et alors ils se sont jetés lors de du dernier saut d'un des deux dans les bras l'un de l'autre, et ça fait des images incroyables parce que voilà, ils ont tous les deux gagné la médaille d'or et ils s'en foutaient de la prime. Ça n'a pas été le cas cette année puisque je ne sais plus dans quelle compète c'était, mais il y a eu aussi deux vainqueurs. Et donc là encore, on a proposé soit on coupe en deux la prime, soit on continue le concours jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et là, ils ont refusé, en fait. Et donc, il y a eu au final un premier et un second, tout simplement parce qu'il y en avait un qui... Et c'est assez intéressant par rapport notamment à ce que je vous raconterai sur le sponsoring et le celebrity marketing au cours de marketing. Ben, il a dit, non, moi, j'ai une famille à nourrir. Je gagne pas super bien ma vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc l'argent de la médaille d'or, j'en ai vraiment besoin, j'en ai pas besoin à moitié, j'en ai besoin à 100%. Et donc il n'a pas voulu. Bon, et voilà, il y a parfois des bonnes surprises, des chouettes trucs. Il s'est passé aussi des chouettes scènes entre des Nord-Coréens et des Sud-Coréens. Je ne retrouve plus la photo, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a beaucoup parlé des obstacles, mais je pense que maintenant vous avez une bonne idée de tout ce à quoi il faut être attentif. Alors, je vais terminer ce fichier audio en vous parlant des principes de base. Donc, je vais les énoncer hein, rapidement. C'est clair que pour qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'il y ait un échange. Hein. Je pense que c'est une des premières phrases que je vous ai dites quand on s'est vu. Et communiquer, c'est échanger. Oui, mais il faut que cet échange soit réciproque. Ça me paraît paradoxal de dire ça, mais non seulement réciproque, mais aussi équilibré. Réciproque, est-ce qu'un échange peut être réciproque? On a l'impression qu'on se répète. Ben oui, si un échange il est réciproque, non. Un échange peut être pas du tout réciproque, à savoir que vous êtes deux à échanger et il y en a un qui rentre pas dans le jeu, donc qui se tait, qui se retourne, qui n'a pas envie de communiquer. Donc pour qu'il soit épanoui, l'échange doit être réciproque. Il doit être équilibré entre les deux. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de situations dans lesquelles il y a de l'échange, mais qui n'est pas équilibré. Et donc, par exemple, je pense aux jeunes pour le climat, à toutes ces manifs de jeunes d'à peu près votre âge qui n'ont pas été au cours pour pouvoir aller en rue et pour pouvoir dire que il faut sauver le climat, le monde politique ne les a jamais écoutés. Mais alors là, absolument pas, ou fait semblant en tous les cas. Mais donc ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a quelques-uns. Et ça, évidemment, c'est un autre problème. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment essayer d'être dans l'égalité entre l'échange. Donc ça rappelle évidemment le problème que peuvent avoir les égocentriques, hein, qui ont du mal à comprendre qu'on peut avoir un échange équilibré. Je rappelle aussi que, alors on en reparlera aussi plus tard par rapport aux personnes charismatiques, mais ça, les personnes charismatiques, en fait, font ça assez bien. Et donc, par exemple, je vais reprendre une personnalité qui est considérée quand même comme très charismatique, et je pense à raison, c'est Barack Obama. Barack Obama parlait avec Angela Merkel, la dirigeante allemande, de la même manière qu'il parlait avec celui qui a ramassé les poubelles dans les couloirs de la Maison-Blanche. Voilà, il faisait pas de différence en réalité. Et donc, il y avait une réciprocité et un équilibre entre les échanges, quel que soit son interlocuteur. Et donc, ça, évidemment, c'est fantastique. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'équilibre, alors les gens se cabrent et ils se radicalisent. Et donc, ça donne des actions qui sont de plus en plus dures. Et donc, si on reprend l'exemple du climat, donc au début, les jeunes, c'était sympa, c'était cool, quoi, c'était même gentil. Voilà, des petits calicots, des petits drapeaux, on fait un tour en ville, on réclame, on chante, on crie, voilà, c'est gentil, ça rentre chez soi, et puis c'est terminé. Aujourd'hui, si vous regardez un tout petit peu, je pense par exemple à Extinction Rebellion, je ne l'ai pas bien prononcé, je m'en excuse, Extinction Rebellion, qui est une organisation britannique à la base, en fait, elle prône non pas la manifestation, mais la désobéissance civile. Donc elle est passée à une étape supérieure. Ah, puisqu'on ne nous écoute pas, on va être plus radical dans nos actions. Évidemment, ça pose d'autres problèmes de gestion, bien évidemment. Parce que alors, Gaïa, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ONG. Flamande à la base, mais belge, on va dire, parce qu'elle opère aussi bien sûr côté francophone, qui se bat pour le bien-être des animaux, si vous voulez, hein, la castration des cochons, enfin, etc. Le gavage des oies, c'est des choses qu'elle aime pas. Et donc ça, c'est une association qui est un peu entre les deux. En fait, elle a réussi à être assez punchy dans ses actions et à toucher l'opinion publique. C'est assez bien ce qu'elle fait. Et c'est toujours assez créatif par ailleurs. Gaïa, c'est voilà, certains peut-être d'entre vous connaissent. La voix des sans-voix, c'est leur slogan en anglais, qui est assez bien trouvé aussi, je trouve. Alors, autre principe de base, bien sûr, c'est une réalité de la communication, c'est que la communication, vous pouvez la pratiquer dans différents contextes, hein. Ce contexte peut être synchrone ou asynchrone, c'est assez technique, mais synchrone, hein, on est synchro, donc on est sur la même longueur d'onde. Synchro, c'est qu'on est ensemble, hein, donc c'est un échange direct. Asynchrone, c'est un échange différé à travers un autre support. Okay, donc il y a un échange qui se fait à travers un livre, à travers, voilà, à travers une émission radio, à travers plein de choses. Donc ça a quand même des incidences sur la manière dont on peut avoir un comportement de communication. Et puis il y a ce fameux triangle dont je vous ai déjà parlé, l'émetteur, le récepteur et le message. Et donc oui, bien sûr qu'il faut mettre en place toutes les conditions pour que le message soit correctement envoyé, mais aussi pour qu'il soit correctement réceptionné. On a parfois tendance à l'oublier, mais je rappelle, et ça c'est assez important au niveau de la réception du message, que parce que il y a plusieurs étapes. Il faut comprendre le message qu'on a reçu. Faut le mémoriser, il faut peut-être le restituer. Donc voilà, je vous l'écris en gras dans le fichier PDF, page 8. Et puis bien sûr, il y a aussi cette volonté de ne pas seulement entendre, mais d'écouter, donc de vraiment activement, et ne pas seulement ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme on disait souvent. Donc voilà, c'est les principes de base qu'il faut connaître. Quand on sait tout ça, on peut avancer et c'est ce qu'on va faire dès le prochain épisode en ayant au préalable fait un tout petit focus. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vous invite déjà dès à présent à regarder les deux, trois spots que je vous ai mis de pub sur la page Connected. La communication publicitaire, c'est une certaine façon de communiquer. On en a déjà touché un tout petit mot. Et puis après, bien sûr, on parlera des... Et on entamera le gros chapitre sur les moyens de communication qu'on a à notre disposition pour faire passer un message. On sera bien sûr dans la première partie, dans le premier élément du triangle, envoyer un message. Voilà, je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Bye bye.